Épisode du lundi 4 septembre, en cette journée de fête du travail. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode de F1 Podcast. À l'horaire pour vous aujourd'hui, retour sur la journée de samedi et de dimanche, en direct du circuit de Monza pour le Grand Prix d'Italie. Réponse aux questions des membres F1 Podcast que vous nous avez envoyées par l'entremise de notre page Facebook, Messenger ou adresse courriel F1 Podcast en un mot, en commercial, gmail.com. Et pour débuter, l'actualité dans le monde de la Formule 1. Actualité, première nouvelle qui fait taire des rumeurs à nouveau. On avait la nouvelle de Lewis Hamilton qui a prolongé son contrat jusqu'en 2025. Ça, c'est ce qu'on vous apprenait vendredi. Mais lundi, aujourd'hui, on est en mesure de vous apprendre que c'est au tour de Lance Stroll du côté d'Aston Martin de confirmer qu'il sera de retour, ou c'est plutôt Mike Crack, directeur de l'écurie, qui en a annoncé la nouvelle avant le Grand Prix d'Italie. Donc, Lance Stroll qui est de retour pour la saison 2024. Ça sera déjà une septième saison pour le Montréalais en Formule 1. Ça en a fait discuter plus d'un sur notre page Facebook F1 Podcast. Plusieurs d'entre vous étaient surpris. Il y en a qui étaient déçus de le voir revenir. Il y en a beaucoup qui étaient contents aussi. C'est quand même un pilote canadien, c'est un gars de chez nous. Donc, de garder, on sait qu'avec le départ de Latifi, bien, il ne reste que Stroll en Formule 1 qui représente le Canada. Il y en a certains qui vont faire la blague de dire qu'on pourrait s'en passer de Stroll qui nous représente de la sorte. Mais il fait un bon travail dans les circonstances. Oui, il est victime du succès d'Alonso. Il est aussi victime du succès que l'écurie Aston Martin progresse. Lui n'a pas nécessairement le talent pour suivre et devenir un pilote dans une écurie de pointe. On ne se le cachera pas. Les statistiques pour l'instant nous démontrent qu'il n'est pas nécessairement un pilote qui peut faire partie du top 10 course après course. Donc, pour lui, c'est ça. Il est un peu victime des circonstances. C'est à lui de hausser son niveau d'un cran s'il est capable de progresser, d'apprendre le plus possible de Fernando Alonso. On sait que Fernando a ses limites aussi. Là, il peut pas transformer Stroll en un champion du monde. Ce serait vraiment trop demandé. Il faut être réaliste aussi. Mais Stroll, ben, c'est ça. C'est de fournir des performances plus constantes. Il a commencé avec, bien sûr, les fractures du poignet, on s'en rappelle. C'était pas le début idéal pour sa saison. Il a manqué les essais en hiver à Bahreïn. Après ça, il a sauté dans la voiture. Il est encore avec ces blessures-là. Il a eu une infection au cours du week-end. Donc, il s'est passé quelque chose aux alentours de Stroll aussi. Là, ça n'a pas été une saison en ligne parfaite non plus. Là, fait que faut mettre ça en perspective. Mais, ben, c'est ça. Lance sera de retour la saison prochaine pour une saison chez Aston Martin. C'est confirmé. Parlant de qui est confirmé pour la saison 2024, eh bien, qui ne l'est pas confirmé plutôt pour la saison 2024, eh bien, il y a Yuki Tsunoda qui est toujours en attente. Lui, il joue son poste du côté d'AlphaTauri. On sait qu'il y a des changements dans l'écurie sœur de Red Bull. On va changer de nom. La possibilité que ça s'appelle, même on a eu ça couler, là, que ça s'appellerait Bull Racing, ou plutôt Hugo Boss Bull Racing. On irait chercher un commanditaire, le commanditaire Hugo Boss. Donc, on n'a toujours pas confirmé si Tsunoda serait de retour. On sait que c'est un talent, on peut dire, il y a une expression en anglais qui dit « a diamond in the rough » pour Yuki Tsunoda. Mais on peut dire, pour la traduction française, on peut dire un diamant brut. Donc, il reste à polir son talent. Il a un style assez particulier, là, un style un peu comme un cascadeur. Là, il monte très fort sur les vibreurs. Il joue, disons que c'est quand on regarde Yuki Tsunoda piloter une Formule 1, ça a l'air plus dangereux que quand on regarde d'autres pilotes. Mais il y a quand même, il reste que c'est un gars qui réussit à aller chercher une certaine rapidité. Il travaille sur son caractère, sur sa maturité. On a engagé un psychologue dans les dernières années pour Tsunoda. Donc, ça va être intéressant de voir si on décide de le garder du côté d'AlphaTauri. AlphaTauri qui est la seule écurie à avoir deux sièges disponibles pour la saison 2024 pour l'instant. Donc, on n'a pas confirmé. Il est dans ma liste ici, là. Ricardo n'est pas confirmé. Et Liam Lawson n'est pas confirmé aussi. Lui qui fait des débuts quand même assez fulgurants en Formule 1. Il montre une belle maturité, une belle constance aussi. Donc, ça va être intéressant de voir là, si c'est pas AlphaTauri ou Hugo Boss Bull Racing, entre parenthèses, là, pour l'instant, il n'y a rien de confirmé pour ce nom-là. Mais si c'est pas eux qui le confirment dans un poste, ça pourrait bien être un autre écurie. Car Logan Sargeant chez Williams, lui, on n'a toujours pas dit qu'il serait de retour ou non. Donc, ça reste à voir. S'il si Williams décide de le garder. Et il y a aussi Guan Yu Zhou chez Alfa Romeo. Lui non plus, toujours pas de confirmation. On s'en va vers 2026 où Audi fera son arrivée en Formule 1. Donc, j'imagine qu'on va vouloir garder ce banc-là disponible. On ne voudra pas s'entendre à long terme avec un pilote. Donc, ça sera de voir est-ce qu'on va donner un autre contrat d'un an seulement pour la saison 2024 ou on va y aller plutôt pour 2 ans, faire comme bien des écuries, donc sécuriser nos pilotes jusqu'à 2025, juste à temps qu'on rechange les règlements en 2026, voir un peu où on s'en va. Donc, c'est ce qu'il y a à surveiller au cours des prochaines semaines, qui reste soit à confirmer ou à signer, où on pourrait voir peut-être des promotions de certains pilotes, gradués de la Formule 2, gradués de l'Indy, gradués d'une autre catégorie ailleurs en Europe. Donc, ça va être à surveiller. C'est les pilotes qui sont, on peut dire, en danger de perdre leur poste au cours des prochaines semaines. On parlait de Aston Martin puis de la comparaison entre Lance Stroll et Fernando Alonso. Eh bien, Fernando Alonso, tout un accomplissement au cours du week-end. Il a réalisé 20 000 tours. Eh oui, 20 000 tours en Formule 1. C'est assez incroyable quand on pense que Raikkonen s'était retiré aux alentours, ben, 18 600 quelques tours. Et puis qu'Hamilton est présentement à 18 500 tours. Eh bien, Alonso a terminé le week-end. Ça aussi, c'est assez incroyable. Le compteur est arrêté à 20 000 tours. Donc, ça a tombé pile comme ça, parfaitement. Donc, je tenais à saluer ça puis à vous en faire part. C'est un bel accomplissement, encore une fois, pour Fernando Alonso. Et ça montre aussi l'expérience que ce gars-là a. Là. Quand on arrive dans un week-end de course, là, on avait un article justement sur lui cette semaine. C'était le directeur des performances de l'écurie d'Aston Martin qui mentionnait à quel point Fernando Alonso, quand il arrive dans un week-end de course, il est capable de diriger l'équipe au complet sur plusieurs points, plusieurs aspects de performance. Autant pour la dégradation des pneus, pour le choix de stratégie, pour les configurations de la voiture. Donc, toutes ces choses-là, il est vraiment un pilote complet. Autant sur la piste, il est capable de vraiment ressentir, transmettre l'information. Et ça permet aux écuries là, qui accumulent des milliers, des centaines de milliers de données lors d'un week-end, bien, lui, il réussit vraiment à coordonner tout ça puis à vraiment réussir à instaurer dans le fond, de diriger une ligne directrice à travers toutes ces données-là pour qu'on puisse ramener ça à l'usine et continuer de faire progresser la voiture. Donc, c'était un beau témoignage de la part du directeur de performance de l'écurie qui vraiment n'a pas tari d'éloge à l'endroit du pilote espagnol. C'était très intéressant à lire. Si vous ne l'avez pas fait, eh bien, dirigez-vous sur notre page Facebook. L'article est toujours là sur le F1 Podcast. Et soyez sûr de nous ajouter une mention j'aime et de suivre la page. Il y a aussi, quand on parlait de Logan Sargeant, il y a Williams aussi qui est venu un peu clarifier la situation. Là, on se rappellera qu'au Grand Prix des Pays-Bas, il y a eu une collision en Q3. C'était malheureux pour lui. C'était la première fois qu'il se présentait en Q3 pour le pilote américain. Il y a eu cette collision-là. Puis plus tard dans la course de dimanche, il y a aussi eu une autre collision. Il était très, très déçu. Là, on a pu l'apercevoir. Il n'a même pas voulu retourner au paddock. Il s'était installé sur une chaise de camping. Puis il a regardé le reste de l'épreuve. Là, il n'a même pas retiré son casque pendant une bonne partie de l'épreuve, donc il était assez affecté par ça, il était très, très déçu, le jeune Logan Sargeant. Eh bien, Williams a clarifié que c'était un problème hydraulique qui était la cause de l'accident. Donc, bonne nouvelle pour Sargeant, là, on y en met beaucoup sur le dos, autant sur des fois sur les réseaux sociaux, pas autant que Lance Stroll. Lance Stroll est vraiment le souffre-douleur en Formule 1 maintenant, depuis qu'on a pu Nicolas Latifi ou Michael Schumacher, les gens vraiment s'acharnent sur Lance Stroll. Eh bien, Logan Sargeant, lui, c'est ça va lui donner une petite pause, là, c'était pas de sa faute cet accident-là, c'est vraiment un problème hydraulique. Par contre, chez Williams, on a décidé pendant le week-end, si vous avez remarqué un écart entre lui et son coéquipier Alex Albon, eh bien c'est parce que Williams a décidé de ne pas donner à Logan Sargeant les nouveaux ailerons, la nouvelle aileron avant qu'on a chez Williams. On n'a pas voulu prendre de chance. C'est un peu. C'est un peu qu'on lui donne un vote de confiance de dire c'était pas de ta faute, Logan, l'accident dimanche passé, sauf que. Les nouveaux ailerons qu'on a faits, on aime mieux pas tes donner parce qu'on aurait peur que t'es endommages, puis on est limité dans la production de ces ailerons-là. Ça prend beaucoup de temps à faire, puis on a peur d'en manquer d'ici la fin de la saison. Fait qu'on va les garder de côté pour Alex Albon, parce que toi, on sait que avec toi, t'as tendance à faire revoler des morceaux un peu partout sur le circuit, donc on voudrait pas que tu endommages nos ailerons. Mais lâche pas, Logan, c'était pas de ta faute aux Pays-Bas. Mais On ne te les donne pas, les nouveaux ailerons. Mais c'est un peu ça que Williams a fait pendant le week-end. Et puis, je dis pas que je suis contre la situation. Je pense que c'est une sage décision quand même de la part de l'écurie de dire on va garder ça pour Alex Albon. Lui, il livre la marchandise. Puis c'est un peu les seules chances qu'on a vraiment de continuer de performer. Puis peut-être même d'aller chercher, d'améliorer nos positions là, chez Williams. Peut-être même un podium pourrait être possible. Là, on s'en va à Singapour. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver sur un circuit comme ça. Albon performe bien. Il réussit vraiment à soutirer le meilleur de sa voiture. Donc, on met toutes les choses sur Alex Albon d'ici la fin de la saison. Ça sera à voir là, si on décide peut-être dans les prochains Grands Prix qu'on voit finalement qu'on réussit à fournir assez de pièces pour vraiment finalement donner l'aileron à Logan Sargeant, mais pour l'instant, il ne l'a pas. Donc, si vous avez vu un écart de performance, c'est pas seulement l'aileron, là, on se le cachera pas, là, que Logan Sargeant aussi n'est pas pour l'instant de la trempe d'Alex Albon, mais ça peut aussi expliquer cet écart-là entre les deux pilotes. Il y a eu Toto Wolff aussi qui a fait plusieurs annonces pendant la fin de semaine. Donc, il a parlé des choses sur Max Verstappen. C'est la nouvelle tendance chez Mercedes. On parle beaucoup de Red Bull et de Verstappen. Eh bien, il a aussi confirmé qu'il serait absent au Grand Prix du Japon. Après le Grand Prix de Singapour, on se dirigera là du côté du Grand Cirque. Mais lui, il n'y sera pas. Il va subir une intervention, une opération à un genou qui traîne depuis longtemps. Donc, c'est plutôt le monsieur Jérôme D'Ambrosio qui va le remplacer. C'est lui qui est le directeur du talent chez l'écurie Mercedes. C'est lui qui s'occupe des pilotes. Donc, c'est lui qui va être le directeur de l'écurie pour le Grand Prix du Japon. Donc, soyez pas surpris si vous ne voyez pas Toto Wolff ou si vous êtes... vous trouvez qu'il n'y a pas eu de déclaration choc du côté de Mercedes pendant ce week-end-là au Japon qui s'en vient après Singapour, eh bien, c'est qu'il ne sera pas là Toto Wolff. Donc, c'est peut-être Lewis Hamilton et George Russell qui vont prendre la relève et de faire des déclarations sur à peu près toutes les écuries qui ont du succès à part eux autres. Eh bien, après avoir de ça, il y a Carlos Sainz, lui, qui a eu un bon week-end. Là, on s'en va vers là. On va faire le résumé de la journée de samedi et de dimanche. Mais Carlos Sainz a eu un bon week-end. Eh bien, ça s'est drôlement terminé pour lui. On sait que Ferrari était à la maison devant leurs partisans, les tifosi. Eh bien, lui, à sa sortie de l'hôtel dimanche, son hôtel à Milan, ben il était victime d'un cambriolage. Il y a quelqu'un qui l'attendait, deux hommes, c'était plutôt ou moins clair, la rumeur, c'était deux hommes ou un homme qui l'attendait pour l'attaquer. Ils lui ont volé sa montre, mais son entourage à Sainte, il avait un garde du corps avec lui qui a réussi, avec son entourage, à arrêter les cambrioleurs. Et finalement, ils ont été remis à la police. Et Carlos Sainte n'a pas été blessé dans l'altercation. Puis il a réussi à retrouver sa montre. Donc, tout est bien, qui finit bien, en espérant qu'il n'ait pas eu des chocs post-traumatiques, là, un peu comme Lando Norris il y a quelques années, qui s'était fait attaquer à la sortie d'un match de soccer en Angleterre et qui s'était fait voler. Il avait dit qu'il avait eu été, même les gens qui l'avaient cambriolé étaient armés. Il avait dit qu'il avait été. Il avait eu du mal à dormir pendant quelques semaines. Il avait des syndromes post-traumatiques de cette fâcheuse incident-là. Donc, c'est ce qui complète l'actualité pour aujourd'hui. Passons maintenant au week-end de course. D'abord, journée de samedi, séance de qualification avec le nouveau format que la Formule 1 tente d'implanter. Bon, quand que je dis tente, on a eu quelques difficultés parce qu'on voulait débuter ça à Imola. Le Grand Prix a été annulé. Ensuite, on a eu la Hongrie. Finalement, la température s'est mise de la partie. Ça n'a pas été vraiment possible de tester le nouveau format vraiment pour avoir un assez grand échantillon pour pouvoir en tirer des conclusions. Donc, Monza était vraiment l'endroit idéal pour maintenant mettre ça de l'avant. On n'avait pas de température, pas de pluie nécessairement pour le week-end, donc on roulait seulement dans le sec. C'était le temps de voir, est-ce que le nouveau format fonctionne? Est-ce que, premièrement, est-ce que vous avez aimé ça? Envoyez-nous vos commentaires. J'en ai pas vu vraiment passer, là. Je sais que c'est seulement un Grand Prix, donc c'est assez dur vraiment d'avoir d'en tirer une conclusion. Mais si vous avez aimé ça, si vous avez pas aimé ça pour l'instant, qu'est-ce que vous en avez pensé? Gênez-vous pas de nous envoyer vos commentaires par l'entremise de notre page Facebook ou notre adresse courriel que j'ai nommée un peu plus tôt dans l'émission. Donc, moi, pour ma part, pour l'instant, ben, comme je dis, c'est tout nouveau. Là, on n'a pas eu vraiment c'est un peu tôt pour vraiment tirer des conclusions. Moi, après ma barre, j'aime pas ça. Moi, je vous l'ai dit vendredi, je veux voir les voitures aller le plus vite possible. Les voitures qui vont le plus vite possible, c'est en gomme tendre. Il y a aussi le fait que ça gâche un peu, ça vient un peu bousculer le week-end. Les voitures ont un peu moins de temps de performer leur réglage. Il y a tellement de tests à faire. Les voitures, les écuries qui sont moins bonnes, qui sont moins certaines de se rendre en gomme tendre, et on va favoriser de tenter de survivre en gomme dure. Donc, les tests le vendredi, on va vraiment privilégier ces deux types de gommes-là, donc les médiums et les durs. Donc, on ne fait pas vraiment de tests en gomme tendre. Donc, il y a tout juste. C'est une accommodation-là qu'il faut faire. Il faut commencer à s'habituer à ça, s'acclimater un peu, point de vue pour les écuries, autant pour les partisans. Mais après ma barre, j'ai pas trouvé que ça nous a donné nécessairement un meilleur spectacle. Ça l'a aussi un peu défavorisé les écuries de bas de peloton qui ne sont pas nécessairement qui n'ont pas nécessairement la voiture qui est capable de monter la température dans les gommes assez rapidement pour être performante. Fait qu'à ce moment-là, ben, ça vient un peu les retirer de l'équation. Par ces. Là, on peut parler des écuries comme As, AlphaTauri. C'est un peu eux autres qui ont eu des problèmes avec ça. On aurait pu aussi avoir une écurie, ben, Alpine, on sait que c'est des problèmes de moteur, c'est pas nécessairement des problèmes pour monter la gomme en température, là. On les a vus lors du week-end, ils ont eu de la difficulté à se faire justice. Mais côté spectacle, j'ai pas trouvé que ça le rehaussait, mais on sait que après ma barre, l'idée de ce concept-là, c'est vraiment de réduire l'empreinte écologique en réduisant le nombre de trains de pneus qu'on doit transporter lors d'un week-end de course. Mais celui qui a signé la pole position dans un week-end en Italie, à Monza, devant les tifosi qui étaient vraiment, qui ont animé le spectacle du début à la fin, eh bien, c'est Carlos Sainz qui a réussi à voler la pole position à Max Verstappen dans son dernier tour. Au dernier instant, il a réussi à ça. Et on a eu, c'était très serré, là, entre les trois premières voitures, là, on n'avait pas une grosse démarcation entre Sainz qui était le premier, Verstappen deuxième, Leclerc troisième, c'est Russell qui est venu se faufiler en quatrième position. Sergio Perez, cinquième, lui qui avait été victime d'une sortie de piste, avait un peu affecté sa confiance à la fin des séances de pratique, donc la deuxième pratique du vendredi. Sergio Perez, un peu déçu, il y avait un nouveau moteur à l'intérieur de sa voiture, comme les deux Ferrari. Et normalement, on sait par le passé, un pilote a un nouveau moteur à bord de sa monoplace, ça va lui donner plus de performance. Un moteur qui est neuf va donner plus de performance dans les débuts. On a déjà vu Max Verstappen mettre un moteur neuf à Spa-Francorchamps puis être capable de remonter de la 14e position avec beaucoup, beaucoup de puissance. Donc, on se rappellera aussi au Brésil avec Lewis Hamilton il y a quelques saisons dans la course sprint qui avait réussi à remonter avec son moteur flambant neuf. Donc, normalement, on a cette donnée-là de dire qu'on a un moteur on enlève un moteur usagé puis on en met un qui sort de la boîte, là, qu'on déballe un nouveau moteur. Mais normalement, on va voir les pilotes aller chercher plus de performance. C'est pas anormal de les voir même signer une pole position. C'est ce qu'on a vu pour Ferrari. Ferrari, on avait gardé des nouveaux moteurs pour Monza. C'est un Grand Prix important pour l'équipe italienne. Donc, on s'était concentré là-dessus. On a aussi, selon moi, augmenté la puissance de ce moteur-là. On a pris un petit risque. On sait, on descend la puissance des moteurs pour être sûr d'être capable de survivre un Grand Prix. On a des problèmes de fiabilité. Donc, à Monza, on ne s'est pas gêné. On a dit, on y va flambant neuf, puis on met un peu plus de puissance et ça a porté fruit. On a vu les deux Ferrari être capables de se glisser dans le top 3. C'est comme je vous disais, Perez, lui, a dû se contenter d'une quatrième. C'est même fait devancer par Russell. Albon, qui continue le travail, c'est cinquième, pardon, Perez. Je pense que je viens de dire quatrième. Sixième, Albon chez Williams. Ça, c'est encore une très, très belle performance. Autant de la part d'Alex Albon que de la part de l'écurie Williams, qui semble vraiment s'en aller dans la bonne voie. On avait beaucoup de rapidité tout au long du week-end encore. Donc, c'est intéressant à voir le Williams. On s'en va vers la bonne voie. Donc, à surveiller dans les prochaines semaines si on continue cette progression-là. On avait aussi, comme on avait mentionné un peu aussi, qu'on avait un nouvel aileron avant. On avait des améliorations. Donc, on continue de mettre à jour cette monoplace-là pour la saison 2023. Piastri était le premier pilote McLaren, donc il a devancé son coéquipier Lando Norris. C'est lui qui l'a signé la septième position. Lewis Hamilton, huitième. Il n'était pas vraiment. T'es pas content après cette séance de qualification-là. C'est un peu ironique. On peut souligner le point. Il avait écorché un peu au passage les ex-coéquipiers de Max Verstappen au début du week-end en disant que Max Verstappen avait eu des moins bons coéquipiers dans sa carrière. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était supposé d'enlever à Verstappen le fait qu'il y a eu des moins bons coéquipiers. Mais il a voulu souligner ça à tout le monde. Il se sentait obligé de préciser ça. Eh bien, il s'est fait battre par trois anciens coéquipiers de Verstappen. Donc, Sainz, lui, il y avait Perez, qui est le coéquipier actuel. Et puis, il y avait aussi Alex Albon dans une Williams. Donc, peut-être que c'est eux qui voulaient lui remettre sa monnaie de sa pièce, mais c'est sûr qu'il n'était pas content de voir ça. Il a aussi fait de souligner que Max Verstappen avait répliqué à Lewis Hamilton lors du week-end en disant qu'il croit que s'il fait tous ces commentaires-là, ben c'est sûrement un signe de jalousie de la part du pilote britannique. Norris, lui, était 9e derrière Hamilton, Alonso 10e, Tsunoda 11e, Lawson, très bon travail encore, 12e, juste en arrière de Tsunoda, c'est ce qu'on lui demande, là. C'est seulement son 2e Grand Prix en Formule 1, je soulevais le point que peut-être qu'il serait nerveux parce que là, il avait eu le temps d'y penser. La dernière fois, on lui a dit « saute dans la voiture, pas de préparation ». Il n'a pas vraiment eu le temps d'y penser et commence à être nerveux. Là. Il y avait une semaine pour penser à ça, mais ça n'a pas paru aussi proche que ça que son coéquipier. On peut pas demander mieux. C'est une très belle performance de Larson en qualification. Après ça, Hülkenberg, 13e. Bottas, 14e. Un ancien coéquipier de Verstappen, lui, Hamilton plutôt. Lui était 14e. Sargeant, 15e. Encore une belle performance. Ça fait drôle à dire, 15e, mais pour Sargeant, c'est beau. C'est sûr que quand on regarde son coéquipier, Albon et où, mais on l'a dit, il n'y avait pas l'aileron avant. Après ça, Guan Yu Zhou, 16e. Pierre Gasly, 17e. Alpine, on demande un assouplissement de la règle. On veut être capable d'ouvrir le moteur puis d'aller faire gagner cet engin-là, ce groupe motopropulseur-là, Renault. On veut le faire gagner en puissance. On demande cette permission-là qu'on n'a toujours pas eue. On dit qu'on a un manque jusqu'à 30 HP de moins que les autres écuries. On allait sur un circuit moteur et ça a paru. On n'avait pas de puissance. En ligne droite, c'était très difficile. Donc, Gasly a dû se contenter de la 17e place et son coéquipier, aussi dans une Alpine, donc 18e pour lui, pour Esteban Ocon. Magnussen, 19e. Et Lance Stroll, 20e. Là, il faut mettre en perspective, c'est quoi qui s'est passé avec Lance Stroll? Vous avez été nombreux à souligner des questions, des commentaires, poser la question, mais si on retrace ce qui s'est déroulé lors du week-end. Première pratique en FP1, le vendredi. Lance Stroll, il doit laisser sa place. C'est des consignes d'équipe. C'est un règlement maintenant en Formule 1 qu'il y a au moins une séance dans l'année où on doit laisser notre place à un jeune pilote. C'est une initiative pour former les pilotes de demain, qu'au moins qu'un jour, on les mette pas en Formule 1 puis ils n'ont jamais conduit une Formule 1 de leur vie. Donc, quand on pense qu'un pilote pourrait être un jeune espoir pour le futur, donc souvent, c'est normal qu'on lui laisse une session de FP1. Donc, c'est comme ça pour tous les pilotes. Donc, Verstappen, Alonso, Leclerc, n'importe qui va être obligé de laisser sa place, céder sa place au moins une fois dans l'année pour une séance de pratique. Eh bien, c'était le tour à Stroll. On a décidé de mettre Dragovic à sa place. Dragovic, c'est le champion de Formule 2 de la saison passée. C'est un bon pilote. Mais c'est lui qui a fait la première séance FP1. Donc, Stroll, pas de pratique, pas le temps de décider ses réglages. Il n'a pas eu le temps de tester le circuit. Il n'a pas eu ça le matin. L'après-midi, c'est la première fois qu'il saute dans la voiture le vendredi après-midi. Il saute dans la voiture. Sa voiture s'arrête en bord de route, de piste. Il doit abandonner. Pas d'essai non plus. Pas de réglage. Il se présente en qualification. Et là, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, il est 20e. Là, les gens vont dire, oui, mais c'est pas la première fois qu'il pilote à Monza. Il connaît le circuit. C'est différent à chaque année. Où il y a la température. Il y a les conditions du circuit. Il y a la voiture. La voiture, là, la AMR 23, plutôt, lui, il l'a jamais piloté sur le circuit de Monza. Il a piloté la AMR 22 de l'an dernier, mais la 23, il l'a jamais piloté. Donc, les bons réglages, il les avait pas. Donc, il s'est présenté en qualification sans ces réglages. Certains d'autres pilotes auraient peut-être pu survivre. Même les bons pilotes auraient eu de la difficulté. Mais Lance Stroll a besoin de ces pratiques-là. C'est un pilote qui a déjà énormément de difficultés à trouver les bons réglages, même avec deux séances de pratique. Quand il se présente à qualification, des fois, s'il y a de la misère à compétitionner, parce que ça lui prend énormément de temps à s'acclimater à un circuit et à la voiture pour un week-end donné. Même chose dans le cas de Sergio Perez. Si on retire les deux séances de pratique à Sergio Perez, qui est un très bon pilote aussi, si on lui retire ces deux séances de pratique, il va éprouver énormément de difficultés en qualification. Donc, c'est la même chose pour Lance Stroll. Lance Stroll, il s'est qualifié 20e. C'était prévisible. Ça m'aurait beaucoup surpris qu'il réussisse à survivre puis peut-être se placer 10e, 11e, 12e, 13e. Ça aurait été vraiment un accomplissement vu la situation, qui n'avait pas piloté du tout dans la journée de vendredi, n'avait pas pu décider les réglages. Donc, il s'est sûrement fié aux réglages de son coéquipier, Fernando Alonso, mais c'est pas sa voiture, c'est pas ce que lui voulait. Donc, à ce moment-là, c'est beaucoup plus dur de se faire justice. En gros, c'est ce qui résume les séances de la séance de qualification du samedi. Maintenant, passons au Grand Prix de dimanche. Grand Prix d'Italie en direct de Monza, si ce n'est pas la, mais c'est certainement une des meilleures courses que nous avons eu droit depuis le début de la saison. Il y a tellement eu d'action, ça s'est déroulé à un train d'enfer, ça a passé tellement vite, même si c'était trop court. On dirait que j'ai eu à peine eu le temps d'absorber l'information qu'on avait et de profiter de la course. On était déjà rendu à la moitié de l'épreuve, donc j'ai trouvé que ça a passé extrêmement vite. J'étais déçu que c'était déjà terminé parce que on a eu droit à beaucoup, beaucoup d'actions, des bagarres en piste. Vraiment, là, je trouve qu'on a eu les nouvelles réglementations qui sont implantées depuis 2022. Ben là, on a vraiment pu voir à quel point ça nous donne un spectacle. Les voitures étaient proches tout au long de la course. On n'a pas vraiment eu d'écart qui se sont créés, même si on n'a pas eu de voiture de sécurité en tant que telle pour venir rapprocher le peloton. Le peloton a resté prêt pas mal toute la course, donc c'était super intéressant. Ça a commencé même avec de l'action. On a eu droit à 3 tours de chauffe. Il y a Yuki Tsunoda, lui, qui a réalisé le tour le plus lent du week-end, et même selon mes informations, il n'a toujours pas complété son tour. Donc, on attend toujours pour savoir son chrono, parce qu'il a été obligé de s'immobiliser sur le bord de la piste lors du tour de chauffe. Il a eu de la misère à décoller même, puis après ça, une fois qu'il a réussi à partir, ben, sa voiture, elle a rendu l'âme. Donc, il n'a pas pu participer à l'épreuve. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour qui? Oui, pour Yuki Tsunoda, pour AlphaTauri, mais aussi pour Liam Lawson, parce que ça aurait été intéressant de voir une façon d'évaluer le résultat de Lawson, de voir la performance versus son coéquipier. On en discute souvent, mais en Formule 1, le meilleur comparatif, c'est la même voiture que nous, donc la personne qui pilote une voiture égale à la nôtre, avec les mêmes couleurs, la même écurie. Donc pour Liam Lawson qui commence en Formule 1, ça aurait été vraiment intéressant de pouvoir le comparer à Tsunoda, de voir si son résultat, il continue de progresser, s'il est vraiment dans les temps, si c'est lui qui réussit à en tirer plus que la voiture est vraiment performante, s'il réussit à égaliser Tsunoda, ce qui serait quand même aussi très bon, parce que Tsunoda, ça fait quelques saisons qu'il est en Formule 1. Donc, tout ça, c'est une donnée qu'on aurait été vraiment intéressante, qu'on aurait pu avoir autant pour lui que pour les partisans, mais on a été privé de cette donnée-là due à l'abandon de Tsunoda dès le tour de chauffe. Eh bien, le Grand Prix a été remporté par, pour une 10e fois d'affilée, record, il devance Sébastien Vettel. Eh bien, c'est Max Verstappen qui a remporté ce 10e Grand Prix-là d'affilée. Il a fort à parier qu'il voulait, même s'il peut laisser entrevoir des fois que les records, c'est plus ou moins ce qui l'intéresse. Ben, il n'a pas vraiment mâché ses mots sur celle-là. Je pense qu'il voulait. Il avait même un casque spécial pour l'événement. On sait pourquoi, parce que ça va être mis en vente, les mini-casques pour les collectionneurs qui sont de plus en plus populaires. Donc, ce petit casque-là va rester le casque du record. Donc, si vous avez quelques centaines de dollars à dépenser, ou si vous voulez préparer les cadeaux de Noël pour des amateurs de Formule 1 autour de vous, eh bien, ça pourrait être vraiment un item de collection qui pourrait rester dans l'histoire d'avoir le fameux casque où Max Verstappen a battu le record, donc le casque du Grand Prix de Monza 2023. Donc, c'est certain et fort à parier là, que les montants de la revente pour cet item-là de collection vont être assez élevés. Et donc, c'est ça, Verstappen qui a réussi. Il a mis, moi, c'était ma prédiction. J'avais discuté avec certains d'entre vous. Je voyais les Ferrari vraiment avoir des problèmes à ménager leurs pneus. D'autant plus que pour Sainz, si tu veux décider de ménager tes pneus, ben, t'as Max Verstappen qui te met de la pression à l'arrière. C'est pas toujours évident. Mais c'est ce qui est arrivé. À peine après 4 tours, Verstappen a envoyé sur un message radio pour dire que Sainz avait déjà commencé à glisser avec son train arrière. Donc, il voyait que ça commençait déjà à être pénible pour le pilote Ferrari. Donc, il a accentué la pression sur lui. Finalement, Sainz a commis une erreur. Il a vraiment mis ses pneus en fumée. Il a barré les freins et ça a donné la porte tout grande ouverte à Verstappen de tenter le dépassement après la première chicane. Donc, ça a donné plusieurs premiers tours très intéressants. Il a vendu chèrement sa peau. Sainz, chapeau à lui pour ce travail-là. C'était très intéressant. Les premiers tours, aller jusqu'à temps que Verstappen réussit à le passer. Il y avait Charles Leclerc aussi qui réussissait à se rapprocher de Verstappen vu que lui était pris derrière son coéquipier, derrière Sainz. Donc, Leclerc pouvait pratiquement espérer, peut-être, si jamais il se passait quelque chose, pouvoir sauter sur cette deuxième position-là. Donc, ça a donné le droit à des premiers tours très, très intéressants. Mais tout au long de la course, à vrai dire, on a eu des belles bagarres. Deuxième, ça a été Sergio Pérez. Sergio Pérez aussi qui a animé le spectacle. Il a dû remonter le peloton. Il a eu énormément de difficultés à dépasser George Russell. Ensuite, ça a été assez compliqué pour Leclerc. Ensuite, Sainz, ça a été hyper compliqué. On a eu droit à plusieurs bagarres, plusieurs tentatives. Il a dû sortir de piste, revenir en piste. Il a même dit qu'il y a des fois, c'était dangereux ce que Sainz faisait. Mais Sainz, il est chez, il est devant les partisans Ferrari. Il partait premier. Fait que c'est sûr qu'il n'est pas pour donner une position. C'était limite, mais c'est ce qu'on aime voir quand même en Formule 1. On veut voir les pilotes pousser la limite. Et c'est ce qu'on a vu par Sainz tout au long du week-end. Sainz, lui, a quand même réussi à sécuriser une troisième place au fil d'arrivée, même si Charles Leclerc avait les dents très, très longues. Là, en fin d'épreuve, là, on l'a vu, là, il voulait cette troisième place-là. On a même eu, quasiment eu droit à un doublé Ferrari qui aurait pu les deux aller se sortir devant leurs partisans. C'est extrêmement limite. Depuis quelques saisons, là, on est habitué avec ça chez Ferrari. Il n'y a pas de consigne d'équipe. On en a donné à la toute fin. On a dit, on plus de risques, on prend plus de risques parce que là, ça s'en venait vraiment à limite. Charles Leclerc, à un moment donné, a failli là, vraiment emboutir la voiture de Carlos Sainz à l'arrière. Donc, c'était, mais ça donne pour nous, les partisans, on ne se plaindra pas. C'est un très, très bon spectacle. Mais ça, j'ai hâte de voir un jour chez Ferrari. Si on va corriger la situation, puis commencer à donner un peu de consignes d'équipe, parce que, pas que je le veuille que ça arrive, parce que, nous, comme je le dis, nous, à la télé, c'est super intéressant, mais il y a des risques là, qui sont pris, que s'il avait fallu que les deux voitures se sortent, là, ça aurait été une catastrophe, non seulement pour les partisans Ferrari, mais pour tous les partisans de Formule 1 qui s'en auraient donné à cœur joie de continuer de rire à de cette écurie-là qui est un peu devenue la risée pour leurs décisions week-end après week-end. Donc, en même temps, moi, je me croisais les doigts pour Ferrari que tout passe. Autant pour Sainz, il avait un excellent travail, et pour Leclerc, qui le mérite bien, c'est tellement un bon gars que on ne veut pas le voir avoir un accident de plus cette saison. Donc, Russell, lui, cinquième. Parlant de bon gars, ben, George Russell n'a pas été le bon gars là, lors de ce week-end-là. Là. Encore, il a essayé de court-circuiter un virage. Ça, il l'avait fait en Autriche, puis il n'avait pas été pénalisé. Donc, peut-être qu'il s'est dit, je vais le réessayer, je vais passer par là. Donc, aussitôt qu'il sent que ça chauffe un peu dans un virage, puis qu'il y a un certain risque, il va sûrement prendre la porte de sortie, court-circuiter le virage, gagner un avantage. Puis là, il a senti qu'il n'était pas obligé, que ce n'était pas obligé nécessairement de remettre la position à Esteban Ocon quand il a fait ça. On sait que le règlement dit, si vous sortez de la piste pour éviter un contact, c'est correct. On aime mieux ça que de voir un accident, sauf que vous devez redonner l'avantage que vous avez gagné. Donc, si vous avez gagné une position en faisant ça, vous ne pouvez pas gagner une position à l'extérieur de la piste. Vous devez la redonner dans les plus brefs délais pour ne pas pénaliser la voiture que vous avez dépassée. Eh bien, il ne l'a pas fait. Il ne s'est pas senti obligé de le faire. Chez Mercedes non plus, on n'a pas transmis le message de dire, George, ce serait peut-être pas une bonne idée que tu y redonnes. Comme je dis, ce qui l'a induit en erreur, c'est peut-être le fait qu'en Autriche, il a été capable de dépasser deux voitures en faisant ça. On ne lui a jamais demandé de la remettre. On n'a même pas investigué la situation. On a plutôt. On a laissé aller. Puis, il a gagné deux positions comme ça en Autriche. Donc, à ce moment-là, il ne s'est pas senti obligé de la redonner. Et puis, on a entendu ce qui devait arriver, 5 secondes de pénalité à George Russell. Mais le mal était fait. Il a quand même réussi à sécuriser cette cinquième place-là. Il n'a jamais été vraiment en danger par la suite. Donc, ça a plus ou moins donné quelque chose, cette pénalité-là. Mais c'est ça. Mais je ne l'excuse pas, mais c'est quand même pas mauvais ce qu'a fait George Russell, parce qu'on peut comprendre que tant qu'à avoir un contact, tu peux prendre cette sortie-là. C'est sûr qu'on aime mieux voir ça que les deux voitures qui se sortent. Son écurie va aimer ça aussi, sauf qu'il aurait dû redonner la position. De ce côté-là, de gagner un avantage, ça c'est moins bon. Mais d'éviter le contact, là, il est un peu vite parfois là, aller tout de suite prendre la porte de sortie. C'est sûr qu'on. Comme je dis, quand il a là les prochaines fois, peut-être qu'il va l'être un peu moins parce qu'il va savoir qu'il faut qu'il redonne la position puis ça peut lui coûter un 5 secondes de pénalité. Mais tant qu'à avoir un contact, je suis sûr que son écurie est contente de ça. Il protège la voiture puis il protège aussi ses points pour pas avoir un autre DNF. L'autre mauvais garçon du week-end, non seulement par ses commentaires, malheureusement, c'était un beau week-end pour Hamilton, hein. Il signait un contrat, il demeurait en Formule 1, il y en a qui étaient contents, il y en a qui ne l'étaient pas, puis là, il s'en va de commentaires, lancer des couteaux un peu à tout le monde sur la grille, puis après ça, ben, il finit son week-end avec une bagarre contre le jeune Oscar Piastri qui était... Tout le monde aime, là, présentement, en favori en Formule 1. Là, il a l'air d'un bon gars. C'est un talent indéniable. Eh bien, Hamilton est allé, lui, gâcher sa course en le serrant contre le gazon. Piastri n'avait plus de place pour se tasser. Il y a eu contact et ça l'a gâché la course à Piastri parce que Piastri a eu un aileron endommagé. Il a dû rentrer au puits et puis c'était trop tard pour lui pour le Grand Prix. Puis Hamilton, lui, ben, il a pu continuer sur son petit chemin. En plus, aller dépasser l'autre McLaren, celle de Norris, aller dépasser dépassé Albon qui avait fait un bon travail jusqu'à ce temps-ci et pour finir en sixième place. Il y a quand même eu un 5 secondes de pénalité, mais le mal, un peu comme George Russell, le mal était déjà fait. Les 5 secondes, ça n'a pas changé grand-chose. Après ça, pour Albon, septième. Très bon travail d'Alex Albon. Hein. Encore une fois, sécure une bonne qualification, sécure une belle position en course. Il y a eu des bonnes bagarres, dont avec Lando Norris. Donc, septième, très beau Grand Prix pour Williams et Alex Albon. Norris, lui, huitième, il s'est fait dépasser, c'est ça, par Hamilton. Il a réussi à survivre. Il disait qu'on avait un gros déficit chez McLaren dans les lignes droites. C'est toujours pas corrigé. Mais malgré la situation, il est satisfait d'une huitième place. Il dit on a réussi à survivre contre des écuries qui étaient beaucoup plus rapides que nous en ligne droite. Faut travailler là-dessus. Donc, c'est encore, il y a encore des points à travailler. On est revenu de loin chez McLaren. Les grandes lignes droites, la voiture n'aime pas ça. Mais on s'en va à Singapour. Ça pourrait être un bel endroit pour se rendre justice. Une place où ce que la McLaren pourrait peut-être être très compétitive. Ensuite, 9e pour Alonso. Lui aussi, le même problème. On a des difficultés de traîner chez Aston Martin. On le dit depuis le début de la saison. On s'attendait que ça serait pénible à Monza. Alonso est satisfait de la 9e position. Pour lui, c'est le meilleur résultat possible. Donc, 9e. Bottas, un bon week-end quand même. Il n'avait pas eu une super bonne qualification. Il a réussi à bénéficier d'un peu ce qui s'est passé avec Piastri, parce que c'est certainement Piastri qui aurait fini dans le top 10 s'il ne s'était pas fait gâcher sa course par Hamilton. Donc Bottas 10e et le champion de la journée, Liam Lawson 11e. Très belle performance, mais comme je vous disais en début, on n'a pas de comparatif. On ne peut pas le comparer à Yuki Tsunoda. On ne peut pas voir s'il a vraiment soutiré le meilleur de sa AlphaTauri. Mais on prend ça quand même. C'est une 11e position. Pas d'erreur, pas de voiture dans le mur, pas d'accrochage inutile, pas de risque inutile non plus. Donc, il fait ça vraiment comme un grand. On dirait qu'il est là depuis le début. Donc, il va devenir très, très, très animé. Il va avoir des discussions très animées aux alentours de Liam Lawson dans les prochaines semaines, voire quand il va avoir le retour de Ricardo, qu'on a annoncé là, que Ricardo ne serait pas au Grand Prix de Singapour et sûrement pas au Grand Prix de Japon. Donc, ça donne deux autres Grands Prix à Lawson. Mais un jour, il va falloir qu'il revienne. Mais c'est certain que Lawson devrait avoir une place en Formule 1 pour la fin de la saison, mais au moins pour la saison prochaine. Piastri, ben, 12e, c'est la conséquence. À cause de Lewis Hamilton qui s'est retrouvé là. Logan Sargeant, 13e. Peut féliciter quand même pour son travail. Il n'y a pas d'accident, puis il a terminé 13e. On peut, c'est ça, il faut lui donner ce qui revient. C'est un beau résultat dans les circonstances pour un gars comme Lawson. Joe, 14e. Gasly, pénible pour les Alpines. On le savait, là, on n'a pas de moteur, donc on n'est pas capable de se faire justice sur un circuit comme ça. Stroll, 16e. Il partait 20e. Pas idéal, mais en même temps, il y a une place pour dépasser à Monza. Il n'a pas été capable vraiment d'en profiter. C'est ça, c'est 16e. C'est un week-end à oublier pour Lance Stroll. Après, Hülkenberg, 17e. Magnussen, 18e. Pardon, les deux As. La seule écurie qui a jugé bon de ne pas emmener d'amélioration malgré une pause de 4 semaines. On se présente à Monza, un circuit de moteur. On a un moteur Ferrari à bord de notre voiture. On ne met pas d'efforts pour gagner des avantages, mettre des mises à jour. Bien, on se retrouve 17-18e. C'est bien bon pour eux. Ensuite, Ocon, lui, c'est à l'abandon. Puis, Tsunoda aussi est forcé à l'abandon à cause il n'a même pas débuté l'épreuve. Donc, c'est ce qui est arrivé pour le week-end de course. Donc, c'est pas mal ça qui résume tout ce qui est arrivé. Il y a eu, c'est l'action. Ce qui retient la journée, c'est le pilote de la journée. Vous avez été, ça a été très, très serré entre beaucoup de gens qui mettaient Max Verstappen. C'est lui qui était élu pilote de la journée pour les fans de F1. Membres F1 Podcast plutôt. Et puis, moi, mon choix, moi, c'était Carlos Sainz. J'étais déchirant entre les deux parce que c'est sûr que gagner 10 Grands Prix d'affilée, c'est très rare. Il a dû gagner chèrement cette première position-là, mais Carlos Sainz a défendu des positions toute la journée. Il a sorti les coudes, il a mis sa voiture large. Il avait la pression de partir premier devant les partisans Ferrari. Il a réussi à résister à cette pression-là. Donc, mon vote est allé à Carlos Sainz. Il était très, très proche de Max Verstappen. Mais c'est Max Verstappen qui a eu le titre de pilote de la journée. Et c'est un choix compréhensible aussi avec les circonstances de terminer avec 10 courses d'affilée, 10 victoires d'affilée, le premier dans l'histoire de la Formule 1. Eh bien, c'est ce qui conclut notre course. Maintenant, passons à la période de questions. La première question qui nous vient par Messenger de Eric de Boisbriand qui me demande « Martin, j'aimerais savoir si tu étais Red Bull ou AlphaTauri, que ferais-tu avec Yuki Tsunoda? Eh bien, c'est une très bonne question. Vous me connaissez depuis, si vous écoutez l'émission assez régulièrement. Normalement, je suis pas un gars qui se cache pour ses opinions. Et puis, normalement, j'ai des opinions sur pas mal toutes. Mais sur Yuki Tsunoda, je suis mitigé. C'est dur, dur de prendre vraiment une décision parce que je suis pas prêt à dire que je le signerai à long terme, qui va être l'avenir chez Red Bull. Donc, ça, c'est un détail important. Donc, c'est vraiment une donnée importante à prendre en considération. On a dit déjà par le passé chez Red Bull, Helmut Marko avait mentionné qu'on ne veut pas garder des pilotes qui n'auront jamais un avenir dans la grande écurie Red Bull. Donc, en gros, si on est certain qu'on n'aura jamais à lui donner une promotion ou qu'il n'a pas l'étoffe d'un pilote Red Bull, donc on veut le laisser aller. Pour l'instant, mon opinion à moi, si vous me demandez, croyez-vous que Yuki Tsunoda va devenir un pilote Red Bull? Non, pour l'instant, je ne pense pas. La preuve, quand c'est venu le temps de des rumeurs pour Sergio Perez, n'a jamais été mentionné. On a mentionné Daniel Ricciardo, on a mentionné des Lando Norris, on a mentionné toutes sortes de pilotes, mais on n'a pas mentionné Yuki Tsunoda. Il n'était pas parmi les candidats. Donc, s'il n'est pas parmi les candidats, c'est qu'il n'est pas prêt ou il n'a pas attiré suffisamment l'attention pour qu'on pense qu'il pourrait être un bon coéquipier à Max Verstappen. Donc, à ce moment-là, Yuki Tsunoda, je ne le vois pas nécessairement pour du long terme. Mais est-ce que je suis prêt à le laisser tomber puis qu'un autre écurie le ramasse puis finalement il finit par éclore un peu comme Alex Albon puis après ça on s'en mord les doigts? Donc, non, fait que j'achète du temps, je leur donne une autre année de contrat à Yuki Tsunoda, puis je continue de le laisser se développer. On l'a mentionné plus tôt dans l'émission, un diamant brut, donc on laisse le diamant continuer à se développer. On a des diamants en Formule 1 comme des Oscar Piastri, des Max Verstappen, des Lewis Hamilton par le passé, des Kimi Raikkonen qui arrivent et qui sont vraiment bons. On peut voir tout de suite le talent qu'ils ont. Puis ça, Yuki Tsunoda, c'est différent. Ça reste beaucoup à polir. Il y a beaucoup de travail à faire encore avec, mais je ne suis pas prêt à lancer la serviette dans son cas. Il y a aussi le fait, j'enlève rien là, je dis pas qu'il mérite pas d'être là. Mais il y a le fait que ce qui a motivé son arrivée en Formule 1, c'est pas parce qu'il était le meilleur nécessairement en Formule 2, mais c'est beaucoup parce qu'il y avait la nouvelle transition avec Honda. On sait Honda, c'est un manufacturier japonais. Yuki Tsunoda, il vient de où? Il représente le Japon. Donc, c'est important pour les commanditaires, pour les Honda, d'avoir un pilote japonais au sein de l'écurie Red Bull, la famille Red Bull. Donc, on l'avait placé chez AlphaTauri. En 2026, le partenariat entre Honda et Red Bull va vraiment prendre fin pour vrai, là. Fait que là, à ce moment-là, ça va être chez Aston Martin. Je dis pas que Tsunoda s'en va chez Aston Martin, loin de là. Je suis pas en train de dire ça. Sauf que plus qu'on avance vers cette transition-là, moins qu'il y a vraiment une raison de garder Tsunoda pour les questions commanditaires. Donc, c'est là qu'il faut vraiment le garder en pensant qu'il pourrait devenir un pilote Red Bull dans le futur. Donc, c'est une donnée qui n'est pas à négliger, là. C'est quelque chose qui pèse dans la balance présentement de savoir pour l'avenir de Yuki Tsunoda. Mais mon opinion à moi, présentement, aujourd'hui, 4 septembre 2023, je le signe un an seulement et je continue à observer son développement de façon étroite dans la prochaine saison. La deuxième question nous vient de Ibaka du Cameroun qui nous écrit « Bonjour Martin, je vous écoute à tous les semaines de chez moi au Cameroun et j'aimerais savoir, lors de l'épisode de vendredi, vous avez mentionné que Lewis Hamilton gagnera 200 millions de dollars pour son contrat jusqu'à la fin 2025. Par contre, sur d'autres sites que le vôtre, j'ai lu qu'il pouvait gagner jusqu'à 200 millions plus tôt pour les deux prochaines saisons. Eh bien, c'est une très bonne question, Monsieur Ibaka. Eh bien, il faut vérifier. Mais il y a plusieurs, comme je le mentionnais vendredi, c'est très difficile de trouver des salaires en Formule 1. C'est assez caché. Pourtant, on sait qu'ils sont bien rémunérés. Mais parfois, c'est ça. Il faut lire entre les lignes. Il y a différentes versions. Il y a aussi différentes devises. Certains vont écrire en livres sterling, car il est britannique, Lewis Hamilton. Il y en a d'autres qui vont écrire en argent américain, car c'est l'argent souvent qui... Quand on veut faire un article, souvent, on va changer ça en la devise américaine pour les sites américains. Il y en a d'autres qui vont écrire en canadien, même si c'est très rare. Il y en a qui vont aller avec l'euro. Donc, il faut naviguer à travers tout ça. C'est sûr que vous allez me dire, entre 100 millions et 200 dollars, c'est pas une différence de devise américaine ou d'une devise européenne. C'est beaucoup plus gros que ça. Eh bien, l'autre chose, c'est qu'il y en a aussi qui vont lire le contrat et qui vont y aller. Ils vont maximiser les bonus. Les contrats en Formule 1, comme dans tous les domaines sportifs, il y a des bonis. Il y a des bonis de signature. Il y a des bonis de performance. Et là, ce qu'on a fait chez certains sites que je lisais, c'est qu'on a maximisé les bonis performance à Lewis Hamilton. Donc, on a pris pour acquis que Lewis Hamilton allait remporter, je vous donne un exemple, 10 Grands Prix, le championnat du monde, le championnat des constructeurs, des tours le plus rapide, des pole positions. Donc, on a vraiment maximisé le contrat au maximum et on pouvait, dans certains cas, aller chercher jusqu'à 87 millions de dollars pour une saison. Donc, si on additionne ça deux fois, bien, on se rapproche beaucoup plus du 200 millions comme vous étiez en train de mentionner. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce petit écart-là qui peut arriver dans certains sites ou certaines nouvelles quand on veut la lire. Mais oui, Lewis Hamilton pourrait aller toucher près de 200 millions de dollars jusqu'à la fin 2025. Mais, tu sais, on va s'entendre que c'est un peu tiré par les cheveux. Il faudrait vraiment, vraiment qu'il connaisse deux saisons exceptionnelles à la Max Verstappen, comme il vient juste de conclure. Comme je mentionnais vendredi, Max Verstappen a fait beaucoup, beaucoup d'argent la saison dernière parce qu'il a maximisé les bonnies qu'il avait sous son contrat. Et il a fort à parier qu'il gagnera énormément d'argent à la fin de la saison 2023, donc la présente saison, avec tout ce qu'il est en train d'accomplir. Là, on parle de records, on parle de beaucoup des pole positions, on parle de championnat des constructeurs, championnat des pilotes. Donc, tout ça, quand on accumule ça dans la balance, ça fait que le pilote gagne beaucoup plus d'argent que ce qui était inscrit préalablement dans un contrat. Donc, c'est ma meilleure façon d'expliquer la situation et l'écart des montants entre ce que je vous ai dit vendredi et ce que vous avez pu lire. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 4 septembre, journée de fête du travail. Merci d'avoir fait confiance à F1 Podcast. Notre prochain rendez-vous sera lundi prochain pour une capsule dans le casque sur le pilote Alex Albon. D'ici là, suivez-nous sur Facebook pour ne rien manquer des développements dans le monde de la Formule 1 et bonne semaine!